Bonjour à tous. Aujourd'hui, la classe de 5e du collège Berthelon est venue ici pour interviewer certains anciens élèves du collège. Le collège se situe à Toulouse, dans le quartier Saint-Michel. Dans cet établissement, il y a 300 élèves et celui-ci a été rénové. Il est très agréable à vivre. Dans le projet patrimoine, notre objectif est de découvrir le patrimoine de Toulouse. Notre groupe a choisi comme source d'information le témoignage car on veut connaître comment vivaient les élèves autrefois. C'est l'histoire du collège.
Quelle a été la raison pour laquelle vous êtes entré au collège ?
C'était à l'époque, c'était un peu différent de maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait un examen. Nous devions subir un examen avec des contraintes, en particulier pour la dictée, où si nous faisions plus de 5 fautes à la dictée, nous ne pouvions pas rentrer au collège. Voilà, autrement, c'était quasiment un concours, parce que les places étaient, contingentées. Mais il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui se présentaient à ce moment-là, c'était surtout l'école primaire, c'était le certificat d'études qui primait à l'époque.
Voilà. Et dans la campagne profonde, dans les alentours de Toulouse, jusqu'à 80 ou 100 km malgré tout, il y avait un intérêt donc à quitter son pays natal, sa commune, et à venir dans un collège qui ensuite est devenu un lycée, vous le savez. Donc j'ai passé mon entrée en 6e à Montauban, pour faire mes preuves quelque part, et puis j'ai été admis donc au collège Berthelot. Pour moi, ça a été un changement de vie radical. En 54, je suis entré au collège, 1954.
Et moi, je suis rentré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1950, et j'ai passé mon baccalauréat en 1958.
Quel était l'état du bâtiment durant votre scolarité au collège ?
C'était, comme on dirait, assez vétuste, parce que c'était un ancien couvent qui avait été, même pendant la guerre de 14, avait servi d'hôpital, et vraiment, les plafonds étaient très hauts, on avait encore des bureaux, comme on appelait ça, double, avec l'encrier sur le côté. Après, ça a été modifié, mais le bâtiment était quand même assez vétuste. Et je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée. Il y avait un couloir qui distribuait les classes, et comme nous étions un peu chahuteurs aussi, il ne faut pas croire qu'on était des anges, c'était mis chacun d'un côté, et ceux qui passaient au milieu étaient poussés par les uns, rabattus par les autres, mais malheureusement, il y en a un, il n'avait personne en face, il a tapé dans la cloison qui s'est effondrée. C'est pour vous dire la qualité du bâtiment.
Moi, personnellement, dans les années 62-63, nous avons bénéficié de nouvelles classes. C'était les premiers travaux qui ont été réalisés donc à Berthelot, et donc avec un nouveau préau, de nouvelles classes, et également une nouvelle porte qui donnait sur l'extérieur, où l'on pouvait accéder, notamment avec les motos et les scooters de l'époque.
Aviez-vous un bus scolaire pour vous amener au collège ?
Enfin, pour ce qui me concerne, puisque je suis rentré en 1950, des autobus, il n'y en avait pas. Il y avait des tramways, et la plupart des élèves donc venaient avec ou le tramway, ou à pied, ou à bicyclette. Il y avait un grand garage à vélo où on pouvait mettre les bicyclettes. La plupart des élèves venaient en bicyclette. On a parlé de moto tout à l'heure, un garage pour les motos. C'était exceptionnel qu'un élève vienne en mobylette, exceptionnel.
Moi, personnellement, j'habitais le nord de Toulouse et j'avais un autobus qui me conduisait jusqu'à la place du Capitole. Et de la place du Capitole jusqu'à Berthelot, je faisais à pied et en courant pour ne pas arriver en retard. Parce que si j'arrivais en retard, je me faisais tirer les oreilles. On avait ce régional qui s'appelait M. Vessier et ça rigolait pas.
Aviez-vous un code vestimentaire ?
Oui, alors en 1950, lorsque je suis rentré au collège, en 6e, on nous avait obligé la blouse. c'est-à-dire le tablier, quoi, comme on disait, la blouse grise, c'était pour les pensionnaires. Elle était obligatoire pour les pensionnaires. Mais autrement, la couleur de la truc devait être bleu ou gris, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais les pensionnaires, eux, avaient une blouse obligatoire grise. C'est-à-dire qu'on les reconnaissait après dans la cour ou ailleurs. On reconnaissait les pensionnaires à leur blouse grise. Et une petite anecdote en passant. Une année, on n'appelait pas le proviseur ou principal, c'était le directeur, à l'époque le directeur. Et le directeur a pris une décision pour les pensionnaires, il leur a demandé le port de la cravate. Alors déjà qu'ils vivaient dans des conditions assez difficiles, ça les a tellement gênés, la cravate les gênait. Mais comme à Berthelot, on étudiait bien et qu'on avait la possibilité de réfléchir, ils ont eu une idée géniale. Ils ont mis la cravate, mais sans chemise. Donc le directeur a dit ça va, pas de cravate. Alors il y avait trois catégories d'élèves. Il y avait les externes qui entre midi et 2h allaient manger à la maison. Il y avait les demi-pensionnaires qui mangeaient au collège. Et puis il y avait surtout les pensionnaires qui eux vivaient en permanence au collège, qui étaient nourris, logés dans des conditions qui n'étaient pas parfois très très facile et la nourriture n'était pas des. Enfin, moi, c'est d'après ce qu'on m'en a dit, puisque moi je n'ai jamais mangé au collège, la nourriture n'était pas fameuse.
À quoi jouiez-vous dans la cour de récréation?
On ne jouait pas à grand-chose. Il y avait quelques courses les unes derrière les autres, des courses, on se coursait, mais les récréations ne duraient pas tellement longtemps. Moi, je n'avais qu'une récréation, c'était le matin à 10h, c'est tout. En tant qu'externe, je n'avais que cette récréation-là. On avait le temps d'aller soulager la vessie, c'est tout. Quoi.
On profitait de ce temps pour justement voir les camarades, discuter et peut-être en même temps parler du cours que nous venions de suivre et celui que nous allions entreprendre.
Oui, parfois, c'est vrai qu'en récréation, maintenant ça me vient à l'idée, on avait donc des exercices à faire, soit une dissertation, soit une rédaction, c'est-à-dire une narration, et on avait aussi un problème de mathématiques à faire. Alors, on n'était pas tous de la même valeur en mathématiques, c'est vrai. En général, on essayait de se renseigner vers les meilleurs pour savoir comment ils avaient fait le problème.
Oui.
Autrement dit, je ne sais pas comment vous dites maintenant, mais nous, on disait à l'époque, on tustait.
Est-ce que vos horaires étaient les mêmes chaque jour?
Non, les horaires étaient variables. En gros, nous avions 6 heures de cours par jour. C'est-à-dire que le matin, on avait 4 heures, des fois 3 heures, mais c'était assez rare. Et l'après-midi, 2 heures. Et parfois 3 heures quand on avait ce qu'on appelait le plein air à l'époque où on faisait du sport, c'est-à-dire on allait de Berthelot, nous allions sur les terrains d'Ampalo, où il y a maintenant plein d'immeubles, où il y avait là des terrains de football où on jouait, on faisait du sport, ce qu'on appelait plein air. Alors on y allait de Berthelot à pied à Ampalo et on revenait à pied. Et ça durait 3 heures, tout ça. Et en principe, donc le jeudi, à l'époque c'était le jeudi que nous n'avions pas classe, de tout le jeudi, et nous avions classe le samedi matin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé que même le samedi après-midi, nous avons eu parfois cours. Et le jeudi était consacré, effectivement, ce n'était pas forcément une journée de liberté, c'est que si, quand on était puni, on allait passer 4 heures au collège en train de copier des lignes sous le bras.
Écriviez-vous avec de l'encre?
Ah oui, on écrivait avec de l'encre, même. Enfin, on n'avait plus le porte-plume, mais on avait un stylo. Et je me souviens que dans les premières années, au moins 6e ou 5e, le crayon-bille était interdit même. Il n'était utilisable, le crayon-bille, que pendant les punitions, c'est-à-dire les colles qu'on avait le jeudi, à l'époque, puisque c'était le jeudi, on faisait 4 heures de colle à copier des lignes à ne plus finir. Mais comme on était un peu espiègle, on arrivait à écrire avec 3 crayons-billes à la fois.
À votre époque, la discipline était-elle sévère ou pas?
Oui, assez sévère, oui. Mais nous étions peut-être moins turbulents que vous. Mais nous l'étions quand même.
C'était une autre époque.
Oui.
Vous souvenez-vous des différents professeurs que vous aviez aimés ou détestés?
On les a presque tous plus ou moins aimés. Certains, on les a chahutés. Ils étaient trop gentils, peut-être. pas assez sévère et où nous, on était un peu espiègles quand même.
C'est vrai que, de toute façon, nous respections beaucoup les enseignants, beaucoup. Oui, mais ça générale. Ne nous empêchait pas de leur donner des surnoms assez cocasses en général. Par exemple, un jour, il y a un professeur d'histoire et géographie qui s'était peut-être foulé la cheville ou je ne sais pas, et qui est arrivé avec une canne. Alors, on l'appelait Jo la canne. Par exemple, notre professeur, il s'appelait De Magny comme prof d'histoire et géographie. Et à l'époque, on suivait le Tour de France, et il y avait un coureur italien qui s'appelait Magny. Et son prénom, c'était Fiorenzo. Fiorenzo Magny. Alors notre professeur d'histoire et géographie qui s'appelait De Magny, il commençait sûrement Fiorenzo. Et on ne l'appelait que comme ça.
Il faut pas oublier notre prof de dessin.
Ah oui.
Et alors, le surnom, vraiment, qui était amical, quelque part, en fait, même si nous étions des gamins espiègles, c'était Vénus.
Vénus, ah, oui. C'était une belle femme. Dame, qui était bien faite, qui avait un certain âge, et ça datait de... Moi, je suis rentré ici en 50, on l'appelait déjà Vénus, ça venait d'avant déjà, auparavant. Et les surnoms, en général, se propageaient d'une classe à l'autre.
Avez-vous beaucoup de travail à faire à la maison ?
Oui, on avait des devoirs, on avait à étudier les leçons, parce qu'on avait des leçons aussi. En particulier, on avait des récitations, dans les classes de jusqu'en troisième, on a eu une récitation, étudier des poèmes ou des parties de pièces de théâtre, enfin de tragédies ou autres, de Racine, Molière et consorts. Et on était interrogés, on était notés. Et me vient à l'idée autre chose aussi, nous étions notés sur l'écriture. Sur l'écriture. Il fallait écrire correctement, il fallait écrire sur la ligne, il fallait écrire, autrement on n'avait pas.
On avait aussi le travail du bois, le travail du fer, au moins une heure par semaine.
Voilà, ça c'est jusqu'en troisième. Et alors, on avait aussi, donc on avait le BEPC à l'époque, le brevet d'études premier cycle. Nous avions un exercice justement de travaux pratiques. Et moi j'ai mon BEPC option bois.
Voilà. Et vous sculptez en fait ou vous faisiez quoi ?
Non, on faisait des assemblages par exemple. Un assemblage en queue d'aronde par exemple, on appelait, on faisait des croisés, on faisait des petites pièces de. Mais on partait d'une. On a appris à utiliser la varlope, le rabot, le ciseau à bois, et tous ces instruments. Le trusquin pour tracer, voilà. Et le double scimètre pour mesurer, bien entendu.
L'équerre,
oui, aussi, oui. Alors, on avait une composition de, à l'époque de gymnastique, on appelait ça, qui était des épreuves sportives. Il y avait, je me souviens, on avait le 800 mètres à faire, le saut en hauteur, je me souviens, le 60 mètres, puisqu'on ne pouvait pas aller plus loin. La piste ne permettait pas d'aller plus loin que 60 mètres. Je pense que c'était les trois épreuves principales.
Il faut savoir que dans ces périodes-là, qui remontent à 54 et même avant, on faisait énormément de gymnastique au sol.
Et j'ai oublié une épreuve qui nous était demandée, c'était le grimper de corde.
Oui.
Le grimper de corde.
Très important.
Oui, très important. Le grimper de corde.
Ça consiste à quoi ?
Hein ? Eh bien, on avait une corde lisse, qui était pendue au plafond du gymnase.
5 mètres.
5 mètres, ça devait faire 5 mètres. Et il fallait monter à la corde avec les mains et les pieds à un minimum de temps. C'était chronométré et on était monté. Voilà.
Avez-vous à la fin de chaque trimestre un bulletin ?
Ah oui, bien sûr. Chaque mois, même, on en avait.
Le moment crucial du trimestre, c'était. Parce que ça promettait ou du plaisir ou, ah oui. ou autre chose.
Et même chaque mois, puisqu'on était noté chaque mois.
Oui.
Mais le trimestre, bien sûr, était très important. Et à la fin de l'année, on faisait le bilan des trois trimestres pour voir si on vous autorisait à passer dans la classe supérieure. Et il y en avait beaucoup qui redoublaient. Hein.
Et quelle année vous a le plus marqué et pourquoi ?
Je reviendrai à la première, la classe de première, que j'ai évoquée tout à l'heure à propos d'un prof de mathématiques donc, qui arrivait à tenir sa classe, comme on dit, mais pas de façon... tout à fait correct malgré les 44 élèves. C'est celle qui m'a le plus marqué, certainement.
Oui, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est la sixième, parce que j'étais gravement malade et j'étais obligé de redoubler.
Moi, personnellement, la classe qui m'a le plus marqué, c'était ma dernière année, puisque j'étais obligé de quitter le lycée, parce que, en fait, je devais partir en compétition, et donc j'ai été obligé de quitter le lycée trois mois avant le bac, avant le premier bac. Je suis passé en première à l'époque. Voilà. C'est l'année qui m'a le plus marqué, parce que j'ai quitté mon lycée.
On était à l'antenne avec Cagnol Sud. Nous étions en compagnie de M. Chevalier,
voilà. Monsieur Doriac,
M.
Joigny
et
M. Mazel.
Avec Jalali, Wendy Andréana Mampandré, Ambre Carrier, Léon Marchand et le célèbre Mehdi Bouzid. Et nos compagnons Salma Besseklal, Marwan Boulman, Nisrine Katab et Kawtar Al-Wadji. Au revoir.